Toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM du lundi au dimanche à 8h et 13h. Séance supplémentaire le dimanche à 18h. Pour la troisième édition, la région Rhône-Alpes organise les débats citoyens dans les lycées. Le but de cette démarche est de promouvoir le vivre ensemble et de permettre le débat au sein des lycées en organisant des tables rondes sur des thématiques bien spécifiques. Ces débats sont un moyen pour les lycéens de confronter leur regard à celui des intervenants et de développer ainsi leur esprit critique. Le lycée Loiselet de Bourgoin-Jallieu a accepté d'organiser une table ronde le mardi 15 décembre 2015 à la maison du département de l'Isère et a retenu comme thématique climat, environnement et développement durable. Ceci en lien avec la 21e conférence climat COP21 organisée à Paris en décembre 2015. En amont de cette table ronde, une émission de présentation vous sera proposée par les lycéens sur les thématiques suivantes: la ville, la biodiversité, les migrations et les transports. Mais tout de suite, je reçois Anina Saoudi, professeure de sciences économiques et sociales au lycée Loiselet. Alors pourquoi avoir accepté d'organiser cette table ronde? Parce que c'est un événement qui est important et puis ce sont plusieurs élèves et plusieurs classes qui vont participer à ce projet.
Oui, effectivement. Alors on a accepté pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était l'occasion un petit peu de travailler en interdisciplinarité, puisque donc on a chacun nos programmes respectifs, mais on a très rarement l'occasion de croiser un petit peu les disciplines. Donc avec nos collègues d'Histoire-Géo, ça a été une des premières raisons qui nous a poussé à accepter le projet. Et ensuite, très rapidement, on a beaucoup apprécié l'aspect pédagogie nouvelle, autrement dit de faire travailler les élèves d'une manière différente, avec une manière une pédagogie qui est moins centrée autour de l'enseignant, donc un peu à l'image des TPE qui sont en fait des travaux qui se font en classe de première où les élèves doivent construire un travail par petits groupes, problématiser avec des recherches. Donc là c'était l'occasion de renouveler un petit peu cette dimension là, le tout étalé sur un trimestre. Et puis en termes de choix de sujet, c'est la question du changement climatique qui est une question qui interpelle nos programmes respectifs en histoire géo et en sciences économiques et sociales, et l'actualité nous a donné aussi une opportunité de saisir la question.
Alors pour ces débats citoyens, justement, il y avait plusieurs thèmes qui étaient proposés. Donc vous avez choisi le réchauffement et ses conséquences sur les sociétés individuelles. Alors un grand thème. Alors combien d'élèves vont participer à cette table ronde et quelles ont été leurs réactions quand vous leur avez proposé cette expérience nouvelle? Puisque il faut rappeler aussi qu'en parallèle, c'est une initiative qui est initiée par la région Rhône-Alpes, mais aussi le lycée Fauriel de Saint-Étienne et puis l'association Médias Citoyens qui a choisi quelques lycées dans les 8 départements que compte la région Rhône-Alpes. Et donc, vous avez été sélectionné suite à une réponse, à un appel à projet.
Voilà, donc en fait, il y a deux classes de terminale ES qui sont concernées, ce qui fait à peu près une soixantaine d'élèves. En l'occurrence, nous, les enseignants, on a été invités dès juin par la région qui orchestrait du coup le projet, par Franck Thévenard du Vivier, qui est prof en prépa et qui du coup pilote un petit peu tout ça de loin. Et puis, les élèves, du coup, ont appris la nouvelle à la rentrée scolaire, en fait, courant septembre. Ben, on a eu différentes réactions. On a eu d'abord une appréhension parce que c'est une année de terminale où les épreuves du bac sont assez, stressantes. Mais très rapidement, ils ont pu se mettre plus ou moins au travail. Et puis, on espère arriver à quelque chose d'assez intéressant et de construit pour la table ronde.
Alors, comment va se présenter cette table ronde? Il y aura des invités. Est-ce que vous pouvez nous décliner un petit peu le programme? Puisque, oui, on le rappelle, ça sera public.
Oui, ça sera public, effectivement. Donc la date qui a été retenue, c'est le 15 décembre, mardi 15 décembre. On a du coup la salle qui est celle du Conseil général à Bourgoin-Jallieu. Donc on accueille, bien sûr, c'est une intervention publique. Donc l'idée, c'est d'organiser une table ronde. Donc on a dû, aller à la rencontre, solliciter des intervenants qui nous ont répondu favorablement. Notamment, on va avoir un élu local qui sera présent, des universitaires, des climatologues, et puis des personnes de la société civile, notamment des associations, et quelqu'un notamment de la CAPI qui sera présent.
Alors c'est un débat qui va durer combien de temps?
Alors le débat en lui-même, au sens strict du terme, durera à peu près trois quarts d'heure, une heure. Néanmoins, la matinée se décompose en différents temps, puisque les élèves ont notamment travaillé une exposition durant tout le trimestre, une exposition qui sera présentée en amont du débat et voilà, qui sera aussi l'occasion de présenter toutes les dimensions du développement durable qu'on ne peut pas présenter au moment même du débat puisqu'on a dû faire des choix. Donc ils ont travaillé sur différentes thématiques et cette thématique sera un petit peu présentée de façon diluée via cette exposition.
Alors est-ce que les jeunes ont eu des thématiques auxquels ils tenaient vraiment, est-ce que vous les avez plus ou moins guidés, ou est-ce que c'est venu spontanément?
Alors il y a des thématiques qui sont venues assez spontanément. Je pense notamment en fait à la question de l'emploi. Après il y a des choses qui on a dû un petit peu souffler. Après l'actualité nous a aussi un peu aidé à recentrer certaines choses. Je pense notamment à la fiscalité, la question des migrations aussi est arrivée assez assez rapidement. On est arrivé avec nos collègues à cloisonner 10 thèmes qui du coup ont été dispatché entre les deux classes. Donc, ce qui nous fait qu'on est arrivé à des groupes d'à peu près 7-8 élèves.
Est-ce que vous sentez leur motivation à ce que, quand effectivement, on est en plein dans la COP21, on en parle dans tous les médias, et eux, à leur âge, ils ont entre 18 et 20 ans, est-ce qu'il vraiment y a une réaction? Alors, on leur posera la question tout à l'heure, mais sentez-vous un élan citoyen vers ces problématiques?
Je pense qu'après, ils sont questionnés avec les questions de l'orage. La question du changement climatique, c'est une question qui ne leur est pas nouvelle parce qu'on en parle. On en parle à l'école, dans les programmes, et puis on en parle aussi dans les médias. Donc c'est une question qui, en tant que jeune citoyen, doit les interpeller. En tout cas, je l'espère. Après, de là à dire que c'est quelque chose qui les préoccupe de façon primordiale, j'ai de la peine à percevoir ça chez chacun d'entre eux.
Alors vous, en tant qu'enseignante, quels seraient vos conseils, votre bilan entre guillemets? Quand on est enseignant, on essaie justement de leur faire comprendre toutes ces problématiques, mais c'est un vrai travail de titan.
Oui, la construction de ce projet-là a été très, très importante et très, très conséquente et lourde aussi pour nous enseignants, puisque voilà, on a dû dès septembre, même dès juillet, se mettre un petit peu au boulot, aller un petit peu concevoir une sorte de maquette de ce travail-là. Ça nous apporte parce que c'est des questions qui nous plaisent en tant qu'enseignants d'histoire géo ou de sciences économiques et sociales. C'est aussi une manière de travailler qui est différente, qui nous touche aussi. Et après, ce qu'on attend, c'est surtout que ça vienne au maximum d'eux et que ça les plaise. Donc c'est une satisfaction en tant qu'enseignant de voir que l'élève est interpellé par ces questions-là. Il produit au sens où il produit en tant que citoyen, en tant qu'une réflexion et puis une production au sens premier du terme.
C'est un plus, mais vous avez quand même vos programmes à faire.
Oui, on a nos programmes à faire, mais bon, on a la chance d'avoir eu des créneaux qui, permettaient de nous retrouver en tant qu'enseignants, plutôt en tant qu'élèves, on avait ce mercredi matin, notamment, où les deux classes pouvaient se retrouver. Et puis, nous, on a dû un peu cuisiner comme on pouvait, en se voyant le midi 2 à la cantine, ou quand on pouvait chez chacun d'entre nous. Donc c'était un peu chaotique par moment, mais... le résultat, on l'espère, sera intéressant et pertinent.
Eh bien, je vous remercie. Donc, on se donne rendez-vous le mardi 15 décembre à partir de 10h à la maison du département à Bourgoin-Jallieu. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a un site internet qui a été mis en place. C'est www.foriel.org/débat-citoyen. Voilà. Là, vous en saurez un petit peu plus.
Voilà, donc j'en profite juste pour dire que le nombre de places est limité. Donc, éventuellement, à ceux qui seraient intéressés, il y a cette adresse mail qui vous permet de nous écrire et pour qu'on puisse vous valider certaines places. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement juste combien la salle peut contenir. On a déjà invité une classe de Voiron, notamment, qui arrive. Donc voilà, on espère que la journée sera plaisante pour tous et instructive.
Alors, n'hésitez pas à réserver à débatcitoyen.lycéloiselet@gmail.com. Il y a des S à débat et à citoyen. Et la salle est d'environ 300 personnes, donc réservez très vite. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Amina Saoudi, professeure des sciences économiques et sociales au lycée Loiselet à Bourgoin-Jallieu. Alors maintenant, on va laisser la parole justement à nos lycéens qui vont aborder chaque thématique. Alors la première thématique que nous allons aborder, c'est la ville. Et c'est avec Tiphaine, Wassila, Nassima, Samba et Benjamin. Alors je laisse la parole à Tiphaine.
Bonjour, nous sommes le groupe ayant travaillé sur le thème des villes. Nous allons aborder plus particulièrement les causes du changement climatique sur les villes ainsi que leurs conséquences, puis nous allons parler des solutions que nous pouvons apporter dans les villes afin d'éviter ce changement climatique. Je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi nous avons décidé d'aborder ce sujet qui est celui de la ville. En effet, ce changement climatique étant en cours, nous avons remarqué qu'il n'épargne aucune ville. Celles-ci sont les plus touchées par ce phénomène et ont besoin d'aménagements considérables pour résoudre ce problème. Ce thème est donc pour nous très important afin de diminuer le problème du changement climatique dans le monde.
On dit que la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 0,74 degrés en un siècle. Quelles en sont donc les causes à l'intérieur des villes et comment sommes-nous responsables ?
Donc, tout d'abord, on sait que la température moyenne a augmenté. Donc notamment à cause de l'activité massive des villes due à l'industrialisation, puisque celles-ci sont pour la plupart des villes très touristiques. Ensuite, donc le tourisme contribue aux causes du changement climatique, mais ce qui est principalement la plus grande cause, c'est l'activité humaine, donc c'est-à-dire le transport, donc qui augmente considérablement la concentration des gaz à effet de serre, qui est un phénomène naturel important pour la survie de la planète. Or, pour donner un exemple, la concentration de CO2 a augmenté d'environ 30% depuis une centaine d'années, donc dû à l'augmentation de l'activité humaine.
Qu'est-ce qui fait augmenter les gaz à effet de serre dans les villes et comment y remédier ?
L'effet de serre est un phénomène naturel indispensable qui réchauffe notre planète. Il permet à la Terre de garder une partie de la chaleur du soleil grâce à son atmosphère. Les principaux responsables de ces gaz proviennent de l'industrie, autrement dit des usines, mais également des transports comme par exemple les camions, les voitures, les bateaux, les avions, mais aussi les centrales thermiques. Chaque personne est donc un peu responsable et à la fois concernée par l'effet de serre et doit participer à éloigner les dangers qui seraient à long terme destructeurs. On peut donc faire des gestes simples et quotidiens pour lutter contre cela, comme par exemple baisser de 1 degré le chauffage, remplacer les ampoules classiques par des ampoules à économie d'énergie, ne pas laisser les appareils électriques en veille comme la télévision ou les ordinateurs. On peut également participer activement au tri sélectif car chaque kilogramme de déchets non triés dégage lors de l'incinération 64 grammes de dioxyde de carbone. Et enfin, évitez de prendre la voiture quand vous pouvez prendre les transports en commun comme le bus, le train ou le métro ou même le covoiturage. Car une personne seule en voiture émet 309 grammes de dioxyde de carbone au kilomètre, tandis qu'en bus, elle en émet 80, ou alors privilégier le vélo.
Les effets des changements climatiques sur les villes sont perceptibles depuis plusieurs années. Quelles modifications ont été observées et quelles en sont les conséquences ?
Donc oui, en effet, les changements climatiques sur les villes sont perceptibles à travers les saisons, notamment, qui se confondent depuis quelques années, ainsi que les différentes maladies découvertes au cours du temps et liées directement à la pollution des zones urbaines, ainsi qu'aux variations imprévues de la température. De plus, l'évolution massive des gaz à effet de serre entraîne un enchaînement des événements naturels incontrôlables pour les villes qui ne sont pas en mesure de résister à de si intenses événements. Nous avons donc remarqué que les insectes s'implantent de plus en plus lors des saisons où ils ne devraient pas apparaître. Le changement climatique est alors à l'origine des perturbations liées à la biodiversité. Nous devons donc en aucun cas faire abstraction de ce phénomène qui risque d'avoir des effets néfastes pour notre futur. Nous avons retenu des données alarmantes concernant la température. En effet, le 21e siècle contient les années les plus chaudes jamais enregistrées auparavant. La température de l'année 2014 a augmenté d'environ 0,74 degrés Celsius et cette augmentation est accentuée par l'activité des différentes villes du monde. Nous pouvons dire que le changement climatique entraîne de nombreuses conséquences classées en plusieurs parties, avec les systèmes physiques concernant les impacts sur la nature, les systèmes biologiques ainsi que les systèmes humains.
Comme nous l'avons évoqué précédemment, la hausse de la température est une conséquence majeure du changement climatique. Si nous n'agissons pas maintenant, comment vont évoluer les villes dans le futur ?
La hausse de la température aura de multiples répercussions dans le futur qui sont difficiles à cerner pour le moment. Cependant, nous pourrons prendre des précautions afin d'éviter les catastrophes naturelles. En effet, la hausse de la température peut causer des catastrophes naturelles importantes que nous ne pourrons pas éviter si nous n'agissons pas maintenant. La fréquence, l'intensité ainsi que la durée des phénomènes extrêmes seront accentuées, alors que les constructions des villes ne seront pas adaptées pour résister à ces catastrophes. Mais ce n'est pas tout. Les pluies ainsi que les canicules deviendront plus intenses et les températures entre les différentes saisons sont amenées à changer et à se décaler petit à petit. De plus, les conséquences sur la santé des citadins deviendront de plus en plus importantes à cause de l'évolution de la pollution et de l'utilisation massive des véhicules. Les ressources en eau potable et alimentaire risquent de baisser, ce qui est un problème alertant pour le futur de nos villes. Le XXIe siècle compte 13 des 14 années les plus chaudes jamais observées depuis 1850 et nous observons déjà des changements très importants dans notre quotidien que nous devons rétablir rapidement afin de ne pas laisser le temps prendre le dessus sur notre futur.
Le réchauffement va poser des problèmes sanitaires pour les habitants. Pensez-vous que les citadins seront plus touchés que les campagnards ?
Donc le réchauffement climatique à l'échelle de la ville va engendrer certains problèmes sanitaires, tels une hausse des maladies respiratoires ou encore la hausse de la mortalité due à la température. Cependant, on peut voir que ces problèmes sanitaires n'ont pas la même intensité à différents endroits. En effet, on a pu distinguer une différence importante entre les espaces ruraux et le centre de la ville. Cette différence est marquée à cause d'un phénomène appelé l'îlot de chaleur urbain. Ce phénomène n'est présent qu'en ville puisque la chaleur émise par le soleil est stockée la nuit par les nombreux bâtiments présents en ville afin de chauffer leur environnement. Alors que dans les zones rurales, cette énergie n'est pas stockée mais utilisée par la végétation. Ce procédé différent entre ces deux zones accentue les problèmes sanitaires au sein des villes, puisque le réchauffement de l'air au sein des villes va favoriser l'apparition d'une couche de pollution appelée smog, et ainsi favoriser l'apparition de certains problèmes sanitaires. Ainsi, avec l'apparition d'un îlot de chaleur au sein des villes, à cause du réchauffement climatique, on peut dire que les citadins seront plus touchés par des problèmes sanitaires que les habitants des espaces ruraux.
Les dernières modifications concernant le changement climatique datent de 1997, lors du protocole de Kyoto. La COP21 a lieu actuellement à Paris depuis hier. Avez-vous une vision optimiste ou plutôt pessimiste par rapport aux solutions apportées dans nos villes grâce à cette conférence ?
Alors moi, j'ai une vision plutôt optimiste sur la conférence qui a lieu à Paris pour faire un peu changer les choses et je pense qu'il a fait réagir les personnes sur leurs impacts qu'ils ont sur le changement climatique. Cette conférence, elle permet de répondre à un cri de détresse de ceux qui subissent les conséquences du changement climatique quotidiennement. Les victimes de ce dérèglement ne l'ont pas provoqué, ils le subissent juste injustement. Les conséquences d'un modèle économique dont ils n'ont pas profité. Cet accord, c'est la dernière chance pour les acteurs politiques de maintenir l'objet climatique de limitation à 2 degrés de hausse des températures d'ici 2100. Il faut donc réfléchir à un nouveau modèle de consommation et de vie au quotidien. Plus on attendra, plus la lutte contre le changement climatique sera difficile. L'accord devra garantir que tous les pays sont soumis aux mêmes règles afin qu'ils puissent vérifier mutuellement qu'ils entreprennent des efforts pour réduire leurs émissions et avoir des assurances sur la bonne mise en œuvre des engagements prévus dans les contributions. La France a choisi de placer cette conférence sous le signe de l'exemplarité environnementale et mettra en œuvre un programme d'action permettant de réduire au maximum l'impact de l'événement sur le plan des consommations de ressources naturelles, eau, déchets, énergie, et des émissions de gaz à effet de serre. Comme on le voit, une petite bataille a été gagnée, il ne reste plus à la communauté internationale que de réussir le pari de Paris 2015.
Quelles solutions ont déjà été mises en place ? A-t-on d'autres solutions prévues dans le futur ?
Plusieurs solutions sont déjà en place, comme par exemple l'interdiction des véhicules polluants dans des zones spécifiques, dans près de 200 villes européennes, avec des sanctions passibles d'amende. Grâce à une vignette présente sur les véhicules, les policiers peuvent voir la catégorie d'émission du véhicule, et si celui-ci circule alors qu'il lui en est interdit, un point de son permis est retiré avec en prime une amende d'une quarantaine d'euros. D'autres villes sont allées encore plus loin en instaurant un péage urbain afin de décongestionner le centre-ville. En rendant cet accès au centre-ville payant, le trafic automobile s'est réduit de 15 à 20% pour les villes concernées, ce qui est une bonne chose pour le changement climatique. En plus de cela, depuis quelques années se sont développés de nouveaux modèles de voitures, la voiture électrique ou hybride qui sont les véhicules les plus écologiques, avec, selon EDF, une émission de 15 à 20 grammes de CO2 par kilomètre contre 135,7 grammes de CO2 pour une voiture normale. À part du côté des véhicules, des aménagements en ville ont été mis en place avec l'élaboration d'Éco-Quartier, qui est un projet qui respecte les principes du développement durable en s'adaptant au territoire. Concernant le futur, nous espérons trouver de nouvelles solutions afin de résoudre le problème du réchauffement climatique qui devient très inquiétant.
Pour conclure, nous espérons que la COP21 qui se déroule actuellement à Paris apportera de nouvelles solutions afin de combattre au mieux le phénomène du réchauffement climatique. Nous avons choisi la musique « Aux arbres citoyens » de Yannick Noah, car nous pensons que cette musique reflète bien notre thème du réchauffement climatique sur les villes, en espérant que notre intervention vous ait plu et vous a apporté quelques réponses à vos questions.
C'était donc Wassila, Nassima, Tiffen, Samba et Benjamin en terminale ES au lycée Loiselet à Bourgoin-Jallieu.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses,
aux arbres citoyens,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Aux arbres citoyens, quelque part.
baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses.
Le titre aux armes citoyens. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Quartier Libre et je suis aujourd'hui en compagnie des lycéens qui vont organiser une table ronde le 15 décembre sur le réchauffement et ses conséquences sur les sociétés et les individus. Cette fois-ci, nous abordons le thème la biodiversité avec moi, Léa, Mallory, Timothée, Maxime et Hugo.
La biodiversité, c'est la diversité de toutes les formes de vie animale, végétale, microscopique sur Terre et de toutes les relations que ces espèces tissent entre elles et avec leur milieu. Actuellement, on a 11 176 espèces, dont 5 714 plantes qui sont officiellement menacées. Nous avons déjà perdu probablement plus d'un million d'espèces depuis les derniers siècles et plusieurs espèces continuent de disparaître. Notons également qu'un tiers des ressources naturelles mondiales a déjà été consommée entre 1970 et 1995. La Terre a connu 5 grandes crises d'extinction et nous sommes acteurs et spectateurs aujourd'hui d'une 6e crise. À la différence des crises précédentes, celle-ci est due à notre propre action. Elle affectera toute l'humanité actuelle et à venir, car nous dépendons fortement de cette biodiversité. L'humain est capable de freiner cette dégradation s'il change son mode de vie et veille à la préservation de notre biodiversité.
Comment réduire l'impact du changement climatique sur la biodiversité ?
Il y a plusieurs façons pour réduire l'impact du changement climatique sur la biodiversité et je vais vous donner quelques exemples de mesures de préservation des espèces. Donc on peut interdire ou limiter la chasse, la pêche et la surexploitation de certaines espèces. On peut aussi limiter l'impact des humains comme la dégradation ou la pollution. Construire des refuges ou des sites de nourrissage pour des animaux. La conservation et la reproduction d'espèces en dehors de leur milieu de vie, donc comme des jardins zoologiques pour les animaux et des jardins botaniques pour les végétaux.
Comment la biodiversité évolue-t-elle en France ?
La France compte sur son territoire 148 espèces menacées et parmi ces espèces, à l'échelle mondiale, il y en a déjà 2 qui sont atteintes, 7 qui sont gravement menacées d'extinction, 6 menacées et 102 vulnérables.
Quelles sont les conséquences de la perte de la biodiversité ?
La biodiversité a une valeur utilitaire, nous en avons besoin, mais aussi elle permet notre survie et nous apporte du bien-être. par exemple, donc prenons le cas de la pollinisation, donc comme les abeilles. Donc ces insectes pollinisateurs, ils rendent aux humains des services vitaux et économiques. La production de 84% des espèces végétales cultivées en Europe dépend directement de la pollinisation par les insectes. À l'échelle mondiale, des études estiment que les services pollinisation offerts par le monde animal à l'agriculture vaudraient environ 153 milliards d'euros par an, sans parler de la difficulté et du coût impersonnel de la pollinisation manuelle.
Comment la biodiversité est-elle modifiée ?
Elle est modifiée négativement car, comme nous l'avons dit précédemment, de nombreuses espèces ont disparu et sont en voie d'extinction. Mais aussi les arbres et les ressources en subissent les conséquences puisque de nombreuses ressources non renouvelables sont en train d'être totalement épuisées, comme le pétrole. La sixième crise d'extinction de laquelle nous sommes acteurs le représente bien.
Quel est l'état des forêts ?
45% des forêts ont disparu depuis que l'humain maîtrise l'agriculture, environ 10 000 ans. 200 millions d'hectares de forêts ont disparu depuis 1990 et nous continuons à perdre 10 millions d'hectares par an. Si la déforestation continuait au taux actuel, et ce taux augmente du fait des plantations de palmiers à l'huile et d'agrocarburants par exemple, la Thaïlande n'aurait plus de forêts dans 25 ans et les Philippines dans 20 ans.
Comme pause musicale, nous avons choisi l'hymne de nos campagnes de trio, puisque cette chanson défend la nature, l'écologie et le monde. C'est donc une chanson qui est engagée à propos du développement durable et ici de la biodiversité.
C'était donc Léa, Mallory, Timothée, Maxime et Hugo en terminale ES au lycée Loiselet à Bourgoin-Jallieu.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
C'était Trio, Hymne thème de nos campagnes. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans notre magazine Quartier Libre et nous recevons aujourd'hui les lycéens du lycée Loiselet de Bourgoin-Jallieu qui nous parlent de réchauffement climatique et de ses conséquences sur les sociétés et les individus. Emma, Lucie, Mathilde, Louis et Léna ont choisi comme thème les migrations.
Les migrations climatiques sont des personnes ou groupes de personnes qui sont obligées de se déplacer de façon temporaire ou permanente à cause de la dégradation de leur environnement local qui ne leur permet plus de vivre normalement, en sécurité et ne subviennent plus à leurs besoins primaires. Selon l'ONU, 20 millions de personnes ont déjà dû se déplacer ou être déplacées pour des raisons environnementales comme l'érosion des terres arables, pollution des nappes phréatiques, etc. sur un total de 230 millions de migrants. Nous avons choisi ce sujet parce qu'il est important de comprendre la gravité des changements climatiques. De nos jours, les migrations ne sont plus liées aux études à l'étranger, mais elles sont avant tout en corrélation avec le dérèglement climatique qui est à cause des inondations, des sécheresses, des cyclones et bien d'autres catastrophes. Ce thème correspond parfaitement au débat citoyen qui aura lieu le 15 décembre au lycée Loiselet. Les alternatives prises par la COP21 pour améliorer le climat permettront de diminuer la quantité de catastrophes naturelles qui ne cessent de s'accroître et donc de diminuer les nombres de migrants.
Donc Emma et Lucie, d'après vos recherches, quelles sont les différentes personnes les plus touchées par le dérèglement climatique ?
Alors, les personnes les plus touchées par le dérèglement climatique se trouvent donc dans n'importe quelle région du monde. Elles sont liées donc aux cyclones, tsunamis pour les pays situés avec des littoraux, mais aussi les tempêtes et les inondations qui peuvent du coup se trouver à l'intérieur d'un pays.
Effectivement, les personnes les plus touchées sont celles où elles habitent dans des pays qui ont une situation économique difficile parce qu'ils ne pourront pas aider à la reconstruction à cause de certaines catastrophes ou de s'adapter à de nouvelles conditions climatiques. Les îles et pays comme les Philippines, Haïti et le Nigeria, par exemple, sont bien plus touchés que des régions européennes comme Malte, l'Italie, qui ont une plus grande possibilité de s'adapter.
D'accord. Et vers quelles régions migrent ces personnes ?
Aujourd'hui, d'après un rapport fait par l'organisation humanitaire britannique, le Christian's Aid, il y a 153 millions de personnes qui ont dû quitter leur foyer suite à des conflits, de catastrophes naturelles et de grands projets de développement. Mines, barrages, périurbanisation, culture d'agrocarburants, etc.
Donc la première destination de ces réfugiés est les États-Unis, avec 43 000 demandes d'exil. Plus généralement, les migrants partent en direction des pays développés du Nord, tels que la Suède ou la Norvège, qui ont connu une hausse de 13% de leurs demandes d'exil en 2009 d'après l'ONU.
Et au-delà des différents dérèglements climatiques, qu'est-ce qui pousse ces individus à migrer ?
Donc le premier facteur des migrants est l'augmentation des catastrophes naturelles, ainsi que la disparition de certaines régions causées par la désertification. En Chine, par exemple, le désert de Gobi avance de 2500 km² par an, ou encore l'érosion des sols ou la montée des eaux pourrait faire disparaître une partie des îles des Philippines en raison de leur faible capacité d'adaptation à ces phénomènes.
Par exemple, les inondations importantes et les tsunamis peuvent entraîner une salinisation importante des sols. La dégradation des terres rend illusoire toute tentative de réinstallation, étant donné que le principal moyen de subsistance des familles a disparu. Il en va de même pour les tempêtes et les cyclones qui ravagent les forêts disparues, privant les populations qui en dépendent de leurs sources de revenus. Il est alors plus facile pour ces populations, le plus souvent, de migrer que de replanter toute une forêt ou de réhabiliter les sols. De plus, les changements climatiques apportent un autre problème qui sont les guerres liées au climat, qui sont particulièrement présentes en Afrique à cause de la dispute de territoire et liée à la disparition d'un précédent territoire qui est devenu inhabitable à cause des changements climatiques.
Et d'après cela, quelles sont pour vous les solutions que l'on peut immédiatement mettre en place et quelles sont celles qui pourraient se faire sur le long terme ?
Donc pour parler des solutions, effectivement, la majorité des solutions donc, se trouvent au niveau local. Car au niveau local, les enjeux sont les plus importants. Mais l'atténuation n'est pas une solution au niveau local, car il s'agit de limiter l'émission de CO2 des activités humaines. Les solutions sont donc les solutions d'adaptation. Beaucoup de choses sont faites pour ces adaptations au niveau des villes. Cependant, elles sont vraiment spécifiées au niveau des catastrophes que la ville subit. Donc, nous avons par exemple les Pays-Bas qui mettent en place des barrières hydroélectriques pour se protéger des eaux. Voilà.
Il existe aussi des moyens scientifiques comme le projet H4, qui est un projet donc financé par la Commission européenne et qui vise à montrer les facteurs environnementaux qui peuvent être responsables, qui fait aussi du coup beaucoup d'analyses et qui marche sur l'anticipation de ces phénomènes et essayer de les contrer avant qu'ils arrivent. les moyens cognitifs, c'est-à-dire prévenir la population et lutter contre l'ignorance, car d'après une étude qui a été faite par la faculté de Lyon, l'ignorance est le premier mot qui revient quand on parle de changement climatique. Donc les moyens cognitifs cherchent aussi à faire changer les comportements des personnes pour les faire évoluer et les rendre plus éco-responsables. Et des moyens aussi institutionnels avec, d'autre part, du coup, des associations et, de nouveau, la prévention.
Et justement, vous parlez d'ignorance, mais que conseillez-vous aux gens pour justement s'informer de ce sujet ?
Nous avons le site internet de la COP21 qui est très intéressant. Il nous informe notamment par des photographies l'évolution des changements climatiques, donc par exemple la montée des eaux ou les inondations, etc.
Aujourd'hui, plus d'un être humain sur deux habite dans une zone où la probabilité d'une immigration environnementale à la suite d'une catastrophe naturelle est élevée. Sans surprise, l'Afrique et l'Asie sont les principales populations touchées. Ces populations seront alors obligées de partir vers les pays les plus développés où l'adaptation à ces conditions a déjà été mise en place. Nous notons que, en 2050, nous compterons plus de 250 millions d'immigrés. Le fait d'agir vite est devenu maintenant pressant. Écoutons maintenant Manhattan Kaboul d'Axel Red et de Renaud.
C'était donc Emma, Lucie, Mathilde, Louis et Léna qui est absente qui ont préparé cette thématique, les migrations.
Intégré quasiment new-yorkais, dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Solon gagne mon air américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Ni t'imposer l'islam des tyrans.
Cela unifie jamais ni le courant.
Devenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. La chair à canon, deux étrangers au fond du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Deux étrangers au fond du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés. Sur le tel, la violence éternelle.
C'était Manhattan Kaboul, interprété par Axel Red et Renaud. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Quartier Libre et je suis aujourd'hui avec les lycéens du lycée Loiselet à Bourgoin-Jallieu et nous abordons la thématique le réchauffement et ses conséquences sur les sociétés et les individus. Nous entendrons Marine, Margot, Younes, Valentin et Théo sur la thématique les transports.
Le transport est actuellement le plus gros contributeur des émissions de gaz à effet de serre avec plus de 27% des émissions. Même si cette part semble se stabiliser depuis 2010, les transports et les gaz qu'ils génèrent posent un véritable problème. Symbole du dynamisme de l'activité économique et facteur essentiel de la mobilité, les transports sont au cœur des débats contemporains et d'autant plus avec l'ouverture de la COP21 qui a eu lieu hier.
Face à cela, les sociétés se mobilisent, que ce soit la communauté scientifique, les collectivités territoriales ou les citoyens. Quel constat peut-on faire ? Quelles sont les solutions ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Younes et Margot.
Quel est le rôle des transports dans les changements climatiques ?
Alors, dans l'imaginaire collectif, lorsque l'on parle de pollution, on imagine tout de suite de grandes usines rejetant des nuages noirs. Or, en 2013, l'industrie ne représentait en France que 18% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait d'elle le quatrième contributeur derrière l'habitat et l'agriculture, tous deux à respectivement 20 et 19%, et les transports avec donc 27,6% des émissions. Le plus grand contributeur, c'est donc nous, citoyens. Ça concerne aussi bien les transports de marchandises que les trajets en voiture, que nous pouvons tous réaliser chaque jour. Avec un parc automobile en circulation estimé à plus de 38 millions de véhicules au 1er janvier 2015, les voitures ont un rôle essentiel dans les émissions de gaz à effet de serre. D'autant plus qu'en ville, la moitié des déplacements en voiture ne dépassent pas 3 km. Or, c'est durant le premier kilomètre que les rejets de CO2 sont les plus importants, étant donné que le moteur est moins efficace à froid. De plus, les voitures sont très mal optimisées, étant donné que l'on compte en moyenne 1,6 personnes à bord. Cela a donc pour conséquence d'augmenter le nombre de voitures en circulation, et ainsi les embouteillages. Ces derniers rallongent la durée des trajets, et donc la quantité de CO2 dégagée.
Quelles sont donc les solutions à apporter ?
Quant aux solutions, nous disposons actuellement de trois leviers. Tout d'abord, augmenter l'offre de transport en commun. Parce que ceux-ci accueillent un plus grand nombre de passagers que les voitures, ils sont beaucoup plus efficaces. Mais attention, tous les transports en commun ne sont pas concernés par cette règle. En effet, le transport aérien, même s'il permet le transport d'un grand nombre de personnes, dégage quasiment la même dose de CO2 par personne qu'une voiture. Mais celui-ci émet d'autres gaz, encore plus nocifs que le dioxyde de carbone. Mais si l'on oublie les avions, lorsqu'une voiture moyenne émet 206 grammes de CO2 par kilomètre et par personne, un bus standard en émet seulement 130 grammes. Certes, la différence n'est pas frappante, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'une voiture possède en moyenne 5 places, le bus peut quant à lui transporter en moyenne 160 passagers. Autre que le bus, on retrouve le métro, le tramway et le RER. Et le constat est encore plus frappant. 4 grammes par kilomètre et par personne. Voilà l'émission de gaz à effet de serre de ce type de transport. Ceux-ci sont donc à favoriser, en agrandissant les lignes de bus et de tramway par exemple, mais aussi en augmentant leur accessibilité, par une hausse de la fréquence de passage. Un autre levier, et c'est celui qui peut paraître le plus évident, c'est changer notre mode de vie et notre manière d'organiser les villes. Actuellement, les villes sont composées de centres d'affaires et de quartiers dédiés aux habitations. Cela augmente donc la durée des trajets, ainsi que la quantité de gaz à effet de serre émise. Pour cela, les urbanistes réfléchissent de plus en plus aux éco-quartiers. Quartiers comprenant à la fois des zones d'habitation, mais aussi des commerces, des écoles et des espaces de loisirs. Ainsi, en rapprochant les différentes activités les unes des autres, les trajets diminuent. L'objectif est donc de pouvoir réaliser les trajets de tous les jours à pied ou à vélo. Une autre solution, et qui est de plus en plus médiatisée, c'est le covoiturage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les voitures sont pour la plupart peu remplies. Avec des PME comme Blablacar, qui permettent de mettre en relation covoitureurs et voyageurs, le taux d'occupation des véhicules augmente sensiblement, avec une moyenne de 3 personnes par véhicule au lieu d'1,6. Ce mode de transport est de plus en plus en train de se développer, reste à voir si cette manière de se déplacer rentrera dans les mœurs des Français. Et le dernier levier concerne l'amélioration des moteurs et des véhicules. La recherche scientifique y joue ici un rôle essentiel, car par le progrès technique, c'est elle qui va concevoir les moteurs de demain, des moteurs moins énergivores et plus respectueux de l'environnement. En France, on peut notamment parler de la Poste, déjà très innovante avec plus de 4000 véhicules électriques, mais aussi avec des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Si cette technique permet de réduire de manière considérable les gaz émis, elle pose malgré tout de nombreuses contraintes, notamment avec le fait que l'hydrogène, une fois compressé, peut être très dangereux. Les chercheurs continuent donc leur travail, et il est certain que les voitures de demain seront bien différentes de celles d'aujourd'hui.
Comment l'État et les collectivités territoriales, telles que la CAPI, peuvent-ils encourager les citoyens à se déplacer plus proprement ?
L'État et les collectivités territoriales peuvent tout d'abord investir dans des infrastructures de transport plus doux, comme les Vélib ou les Vélob à Paris et à Lyon, qui influencent les citoyens à utiliser davantage les vélos au lieu de leur voiture, ce qui devrait déjà réduire la congestion en ville. En effet, si plus de gens se déplacent à vélo, l'État développera les pistes cyclables, elles seront plus sécurisées, ce qui insistera encore plus à utiliser ce moyen de transport. Ensuite, pour le problème du parc automobile, il existe des taxes. À l'achat d'une voiture, l'État sanctionne les voitures plus polluantes. À l'inverse, les voitures qui rejettent moins de CO2 que la moyenne, l'État les subventionne. Ensuite, ce dispositif de bonus-malus a permis de réduire les émissions de CO2. En 2007, les voitures émettaient 149 grammes de CO2 par kilomètre, alors qu'en 2014, les voitures émettaient 113 grammes de CO2 par kilomètre. Et pour encore plus encourager l'achat des voitures hybrides et électriques rechargeables, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 1er avril 2015 a réduit le barème de bonus à 60 grammes de CO2 par kilomètre. De plus, l'État octroie une aide financière aux ménages pour l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques chez eux. À notre échelle, la CAPI développe les transports durables. Elle a notamment créé un site dédié au covoiturage. La CAPI travaille aussi sur la création de plusieurs parcs relais. Ils devront comprendre des places de parking, un dépose-minute, un cheminement pour les piétons, pour leur sécurité, un parc à vélo, et ces parcs relais seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Mais la CAPI doit aussi travailler sur les lignes de bus, car malgré la multiplication de ces lignes, les zones rurales sont encore mal desservies. Les horaires et les tarifs n'incitent pas encore assez les habitants à utiliser les transports en commun plutôt que leur voiture. Donc l'État et les collectivités territoriales sont donc des acteurs indispensables pour encadrer le secteur du transport.
Pour conclure, on peut donc constater que ce sont les transports individuels qui sont en majeure partie responsables du réchauffement climatique avec 27% des émissions totales de CO2. Les transports individuels sont nécessaires à chacun d'entre nous, mais ils ne sont pas indispensables. Il faudrait donc limiter leur utilisation pour ainsi réduire leur impact sur la planète. Il est donc préférable de privilégier les transports en commun tels que le bus ou encore mieux, les tramways, métro ou RER qui sont encore moins polluants que les bus. Pour réduire encore plus cette émission de CO2, utilisez le vélo libre à disposition dans votre ville ou votre propre vélo est la meilleure des alternatives à votre voiture, car ceux-ci n'émettent aucun CO2. Pour les personnes ayant les moyens, il est préférable pour notre planète d'acheter une voiture électrique ou hybride plutôt qu'une voiture à moteur à explosion. Notre planète étant en danger, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des initiatives et modifier quelque peu notre quotidien par des alternatives moins polluantes et parfois bénéfiques pour notre organisme et notre porte-monnaie.
C'était Marine, Margot, Younes, Valentin et Théo qui vous proposaient chez la thématique les transports. Ils ont choisi Green Machine du groupe Trio.
On veut du green machine. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green washing.
Elle cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon. On veut du green washing.
C'est nous les as, les
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green washing.
On veut des
plastique sans phosphate, des shampoings tout organiques,
des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 green washing. On veut du green, 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 green washing.
On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut du green, 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 green washing.
On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer.
On veut du green, 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 green washing.
On veut des baleines et des thons.
On veut du green, 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 green washing.
C'est nous les as.
On veut du green, 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 green washing.
C'était Trio, le titre Green Machine. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Quartier Libre et nous sommes en compagnie des lycéens du lycée Loiselet sur la thématique le réchauffement et ses conséquences sur les sociétés et les individus. Une table ronde aura lieu le mardi 15 décembre à 10h à la maison du département à Bourgoin-Jallieu. Alors Younes, vous avez participé à la préparation de cet événement. Alors quelles sont vos réactions et est-ce que vous avez été tout de suite emballé par ce projet avec le lycée Loiselet ?
J'ai envie de vous dire oui, parce que on entend de plus en plus parler du comme quoi le réchauffement climatique est présent, comme quoi il faut réagir, et le fait que nos professeurs organisent quelque chose pour nous donner la parole, nous permettre de tout simplement de nous renseigner un peu plus. Sans, je vais parler de mon cas, vu que j'ai travaillé sur les transports ainsi que la fiscalité, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas, et du coup forcément j'aurais, je pense à la sortie de ça, une autre vision sur le réchauffement climatique et l'impact de notre société.
Alors nous sommes en plein dans la COP21. Est-ce que pour vous c'est une chose importante qu'il y ait cet événement à Paris et qui réunit tous les grands chefs d'État et toutes les grandes délégations du monde entier?
Oui, bien entendu. La COP21, comme on entend partout parler, c'est un événement très très important, et évidemment le fait qu'on parle de la même thématique au moment de la COP21, forcément c'est lié, et quelque part je pense que c'est ce qui nous a permis de réagir maintenant. On a une sorte d'écho par rapport à ce qu'ils vont dire, j'espère, et du coup bah oui, forcément on trouve ça très important et on est un peu content que le monde réagisse.
Alors est-ce qu'à 17 ans on a cette problématique en tête et est-ce qu'on a envie de faire des propositions?
Oui, on a envie. Après, reste à savoir si les propositions sont adaptées, étant donné que, comme vous l'avez dit, on n'a que 17 ans, donc on ne connaît pas forcément tout ce qui se passe dans le monde, même dans le fonctionnement de la vie en général. Donc évidemment, on a envie de proposer des solutions, donc c'est bien qu'on veuille écouter les jeunes, leur avis. Après, reste à voir si les solutions qu'on va proposer sont adéquates.
Alors, est-ce qu'entre vous, vous en parlez? Est-ce que c'est vraiment une chose qui est au cœur des débats? Parce qu'on sait qu'à 17 ans, on a d'autres idées dans la tête. On a des choses qui sont lourdes en ce moment, dans notre société. Et donc, la COP21 est là aussi pour vous rappeler que vous êtes en train de construire votre avenir. Et en tant que jeune, nous, d'ici là, on sera bien, bien loin. C'est peut-être à vous aussi de faire remuer les choses.
Oui, forcément, on en parle. Enfin, par rapport aux événements de Paris, certes, on en a parlé un peu moins. Mais maintenant, on commence de plus en plus à en parler, étant donné que la COP21 a ouvert hier. On en parle beaucoup plus et c'est quelque chose qui nous concerne. Donc forcément, entre nous, par rapport à l'actualité, par exemple, s'il y a des catastrophes climatiques, etc., on en parle, on débat entre nous de qu'est-ce qui devrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Et oui, malgré qu'on ait 17 ans, qu'on peut avoir d'autres idées, forcément, on est conscient de ce qu'on vit actuellement et on reste les pieds sur terre, on va dire.
Et pour conclure, est-ce que vous estimez que vous avez des gestes quotidiens qui vont dans ce sens-là?
Je ne pense pas encore. Disons que c'est quelque chose qu'on... Je pense qu'individuellement, on a du mal à s'en rendre compte. C'est le problème, c'est qu'on sait que tout va mal, mais on se dit, je pense qu'on se dit tous qu'on doit tous réagir, mais qu'individuellement, on ne le fait pas vraiment, en fait. Et c'est même un peu le souci, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à prendre conscience l'importance que ça a et qu'on réagisse beaucoup plus au lieu de simplement constater.
Puisque on sait que chacun, à notre niveau, on peut faire quelque chose pour notre planète tous les jours, à tous les instants. Il suffit notamment, par exemple, de bien trier ses déchets. Ça, c'est à la portée de n'importe quel individu.
Exact.
Je vous remercie.
Merci.
Toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM du lundi au dimanche à 8h et 13h. Séance supplémentaire le dimanche à 18h.